Bonjour à tous. Content d'être parmi vous encore une fois ce matin. Et donc ce matin, alors j'ai pensé, c'est vrai que le sujet c'était sur la joie et la joie du Seigneur. Et je voulais parler sur le temps. Et donc je pense que c'est un en particulier dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, où il est question du temps. Et pas dans le sens où on mesure le temps, mais je vais d'abord prier pour que le Seigneur nous conduise dans les moments de sa parole, de lecture et aussi de méditation de sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ces moments ensemble et pour ton Église rassemblée ici et rassemblée aussi dans plusieurs lieux. Dans tout le monde entier, Seigneur, et nous te prions de bénir ton Église qui te rend un culte, qui t'adore, et te prions de bénir chaque frère, chaque sœur, que tu puisses visiter chacun, même ceux qui n'ont pas la possibilité d'être dans une Église parmi le corps de Christ, que tu puisses les visiter, les fortifier aussi par l'Esprit Saint et par le moyen de ta parole. Et nous te remercions que nous sommes ici ce matin pour écouter ta parole et entendre ta parole. Et parle-nous par ton esprit et donne-nous des cœurs disposés pour recevoir ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, donc Éphésiens chapitre 5. Je voudrais juste lire, le verset 15 et 16 pour le moment. Éphésiens 5, versets 15 et 16, nous dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc c'est déjà intéressant le fait qu'ici il parle de racheter le temps. Donc s'il y a bien une chose dans ce monde où on ne peut pas acheter, c'est le temps. mais il nous parle de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et c'est vrai quand on regarde par exemple juste à notre passé, nous-mêmes, même le passé récent, il y a beaucoup de choses on aurait voulu peut-être avoir possibilité de faire autrement. Et donc de corriger des erreurs, de passer notre temps autrement et de corriger le temps gaspillé. Passer avec des choses finalement vaines, sans importance, sans valeur, etc. Et je pense que chacun de nous peut le faire, peut penser à ça. Mais ici, il parle de racheter le temps. Donc ça veut dire que le temps qui a été perdu, Dieu nous donne la possibilité de le racheter. Et ça, c'est unique en fait, parce que quel que soit dans le monde, on ne peut pas acheter le temps. Quelle que soit votre richesse, etc., vous pouvez tout acheter, mais pas le temps. Et le temps est déterminé par Dieu. Dans Actes chapitre 17, c'est clair. Donc il a dit que Dieu a donné à chacun un temps déterminé. Et ce temps, c'est Dieu qui l'a établi depuis avant la fondation du monde, finalement. Donc chaque jour, chaque moment de notre vie a été et nous a été donné par Dieu avant la fondation du monde. Mais là, dans Éphésiens chapitre 5, donc le contexte du temps, et c'est important d'y penser, c'est que veut dire vraiment racheter le temps. Et surtout dans notre contexte personnel. Donc ce n'est pas dans le contexte général, mais plutôt dans le contexte personnel. Donc on peut penser à plusieurs, avant de regarder un peu plus directement dans la parole de Dieu, pour savoir de quoi vraiment parle ce verset d'Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, on pourra voir quelques exemples sur la manière dont Dieu vraiment a agi avec le temps. Donc, un autre passage qui est aussi semblable, c'est dans Psaume 90, verset 12. Et là, donc, ça c'est un psaume de Moïse, psaume 90, verset 12. Il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, ce n'est pas en fait un concept nouveau, dont il parlait ici dans Éphésiens, mais c'est quelque chose de très ancien, donc psaume 90, donc à l'époque de Moïse déjà. Donc une des choses que le peuple de Dieu a été exhorté, encouragé à faire, c'était de bien compter les jours. Ça veut dire de valoriser le temps, en fait. Donc, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, bien dépenser le temps que Dieu nous a donné. Voilà, donc Éphésiens 5 et psaume 90 nous parlent justement donc de la mesure du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le contexte personnel, en fait? Donc, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait citer dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, etc. Et surtout, dans le contexte, pas seulement du temps, mais les dons que Dieu nous a donnés. Parce que le temps est passé, et il faut que ça soit, en fait, dans le même contexte que les dons que Dieu nous donne, c'est-à-dire comment utiliser les talents, les dons que Dieu nous donne, quels qu'ils soient, avec une pensée justement pour être, appliquant notre cœur à la sagesse dans le temps que Dieu nous donne. Et on peut penser à plusieurs personnes que Dieu a placées dans des endroits vraiment importants, mais qui sont nécessaires pour leur ministère, comme Moïse, comme Joseph, comme Néhémie, Esdras, Esther, Daniel. Donc toutes ces personnes, en fait, qui étaient placées, que ce soit pas, certains d'entre eux étaient serviteurs, certains étaient des princes, comme Moïse, par exemple. Certains étaient, comme Esther, princesse, même. Donc certains étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, comme Esdras. Et si on va dans le Nouveau Testament, on trouve des personnes, par exemple, comme Philémon, Matthieu, Zachée, le centurion romain, et Joseph d'Arimathée. Donc, toutes ces personnes, en fait, n'avaient rien, apparemment, de commun entre elles, sauf, bien sûr, leur foi en le Seigneur. Mais il était important qu'elles soient là au moment où Dieu avait un plan pour à réaliser. Et donc, c'est-à-dire le temps qu'ils avaient à ce moment-là était important. Donc, comme Daniel, par exemple, je pense qu'il était peut-être tenté de partir de ce lieu, de ce royaume, qu'en fait, qui était en contradiction totale à sa foi et à sa façon de vivre, même sa façon de manger, etc. Donc, c'était pas un endroit agréable pour lui. Donc, il devrait, peut-être la tentation était grande pour lui de partir. Et d'autres aussi, donc il n'était pas en fait dans des endroits, par exemple Joseph d'Arimathée, qui lui donc a pris le corps de Jésus pour de la croix. Donc lui, c'était quelqu'un de très respecté dans le Sanhédrin, c'était un membre du Sanhédrin, donc en fait, alors que tout le Sanhédrin était pour la condamnation de Christ. Et donc, lui, Dieu l'a utilisé autrement. Et donc, il l'a placé à ce moment-là. Donc, il y a cet élément, cette partie-là qu'il faut considérer, c'est-à-dire là où Dieu nous a placés, il a un plan pour nous. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on se trouve là où on se trouve à ce moment-là. Donc, Dieu a un plan. Et ensuite, il y a le temps qui va avec. Donc, le temps aussi que Dieu nous donne à cet endroit précis est aussi important. Donc, c'est ce que je pense, c'est cela le sens de psaume 90, 12, où il dit afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, c'est-à-dire connaître la volonté, le plan de Dieu pour notre vie à ce moment-là, dans cette disposition d'esprit pour vraiment faire que ce temps soit une valeur et une valeur pour nous. Et donc plus tard dans le chapitre 5 de Éphésiens, il parle aussi d'être la lumière du monde. Et donc et nous allons voir Éphésiens chapitre 5 verset 9, si vous regardez. Il dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière Donc, je ne sais pas si vous êtes souvent demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire être lumière? Donc, on n'est pas vraiment des lumières artificielles ou des lumières même naturelles qui brillent de façon visible. Mais qu'est-ce que signifie le fait d'être des lumières? Et je pense que dans ce verset 9, il nous donne la réponse. Donc, il dit, vous étiez autrefois dans les ténèbres, maintenant vous êtes lumière, pas dans la lumière, mais vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il explique directement ce que veut dire être des enfants de lumière, c'est-à-dire marcher donc dans l'esprit, et il dit dans le fruit de l'esprit qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc vous voyez le lien qu'on peut faire ici déjà entre les dons que Dieu nous donne, entre le temps que Dieu nous donne et entre le fait d'être lumière. Donc le Seigneur nous a équipés, nous a donné tout ce que nous avons besoin pour accomplir ces bonnes œuvres. Et en fait, dans Éphésiens chapitre 2, on n'ira pas lire tout le contexte de ce passage, mais il parle bien de que nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, le but même de notre création, c'est pour de bonnes œuvres. Donc, on peut déjà commencer à voir le plan de Dieu, c'est-à-dire quel est le but de notre temps. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et le fruit de l'Esprit que Dieu veut que nous portions est la bonté, la justice et la vérité. Et nous sommes appelés dans ce sens, à marcher dans cette lumière. Donc, maintenant, on peut regarder un peu plus loin ce que veut dire racheter le temps. Donc, quand on considère le fait de racheter le temps, c'est vrai qu'on peut examiner notre vie, et la Bible nous encourage souvent à examiner notre vie, mais surtout à l'examiner en comparant ce qui est éternel et ce qui est temporel. Et c'est vrai, nous passons beaucoup de temps en ce qui est temporel, c'est vrai. Donc on fait des kilomètres parfois tous les jours, et faire des courses, etc. Tout ce qui est matériel et physique, donc des choses temporelles, mais qui sont nécessaires. Mais en même temps, le Seigneur nous appelle aussi à des choses qui sont éternelles. Donc, il y a ces deux dimensions dans lesquelles on vit et qui sont distinctes, mais aussi importantes. Dans Colossiens chapitre 3, en fait, si vous regardez dans Colossiens, il nous parle de versets 1 et 2. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Peut-être un verre d'eau, si quelqu'un. Donc, là où Christ est assis, à la droite de Dieu, et verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, là, on va un peu plus loin, parce que ce n'est plus de passer son temps, si vous voulez, avec des choses d'en haut, mais il dit d'affectionner des choses d'en haut. Donc, ça va dans le domaine de notre sentiment, de nos préférences, etc. Et c'est surtout ça qui gouverne notre temps, parce que ce qui est nos passions quotidiennes, en fait, nous sommes comme un aimant, en fait, attirés vers ces choses. Et donc, l'affection, en fait, dirige la manière dont nous passons le temps. Et c'est ça, en fait, qui gouverne souvent la manière dont on passe le temps. Et si vous remarquez, donc, quand vous voulez vous détendre, etc., quelle est la chose, vous pouvez examiner, c'est chacun de s'examiner personnellement, mais quand on veut se détendre, un peu passer un temps, se reposer même, quelle est la chose naturelle qui vient à l'esprit de faire. Et donc, et en fait, ça, ce sont des choses qu'on affectionne. Ce sont des choses qu'on désire faire plus que d'autres. Donc, c'est dans les moments de repos, dans le temps libre, dans le temps où on veut se détendre et se reposer. Et donc, mais là, en fait, dans le verset ici, dans Colossiens chapitre 3, il nous parle non seulement de chercher les choses d'en haut, mais d'affectionner les choses d'en haut. Vous voyez, donc c'est plus loin. Donc il y a une transformation vraiment de l'affection, et cette transformation, il n'y a que Dieu qui peut la faire par l'Esprit de Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel. Et dans ce cas, en fait, quand on arrive à un domaine où ce n'est pas vraiment naturel, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide. On a besoin que, par la prière, que Dieu vienne et nous aide à renouveler notre affection, à renouveler nos passions, etc. Parce que c'est ce qui dirige vraiment notre temps. Et donc, l'affection est très importante. Mais il y a aussi les dons que Dieu nous donne, chacun d'entre nous. Donc parfois, il y a même des dons dont nous ne sommes pas conscients. Vous n'êtes pas conscient peut-être. Donc, et alors que, en fait, Dieu utilise ces dons, que ce soit des paroles, que ce soit la prière, que ce soit tout simplement de visiter quelqu'un. Ce sont des choses tellement simples, etc., qu'on n'y fait pas trop attention parce qu'elles ne sont pas visibles. Mais ce sont des choses qui révèlent aussi nos passions et nos désirs et notre affection, réellement. C'est de où se trouve notre affection avec l'usage, dans la manière dont on passe notre temps. Et donc, le temps est le moyen le plus sûr, en fait, de s'examiner soi-même. Donc, d'examiner où sont nos passions, où sont nos affections. Eh bien, c'est tout simplement là où on passe le temps. Et c'est là où on se dirige à chaque fois qu'on a un temps libre. Et donc, on va vers ce qui est le plus passionnant pour nous. Mais il y a, justement, quand on regarde dans ce passage, mais plus loin dans le passage de Colossiens 3, et aussi surtout dans les évangiles, donc il y a tellement d'exemples qu'on peut citer. Mais je vais citer aussi l'exemple du jeune homme riche à qui Jésus a parlé. Donc ce jeune homme qui est venu à Jésus, qui était religieux, etc., mais qui voulait hériter, être sûr d'hériter du royaume de Dieu. Et à ce moment-là, quand Jésus a mentionné la loi, etc., les commandements, il a dit, bon, je respecte toute la loi depuis tout jeune. Donc il a fait certainement toutes les cérémonies religieuses fidèlement, donc il suit tout ce qui est prescrit par la loi de façon dans toutes les cérémonies, etc. Mais quand Jésus a pointé justement ses affections et ses passions, donc c'était sa richesse, donc lui c'était un homme riche, donc c'était pas le but pour Jésus de faire ça. Ce n'est pas que parfois les richesses n'est pas une bonne chose, etc., et que le fait d'être riche n'est pas compatible avec la foi. C'est pas ça. Mais c'était surtout que ses passions, ses affections étaient vraiment attachées à sa richesse. Et donc là, il était devenu triste. Et donc en fait, Jésus a tout simplement révélé où sont ses vraies passions. Donc, lui, son temps, il le passait à multiplier ses richesses et à protéger ses richesses. Donc, plus les richesses multiplient, donc plus il faut protéger. Donc, il était très occupé à ce niveau-là. Mais il voulait régler la partie, justement, spirituelle, comme si c'était une autre contrat d'assurance, etc. Donc, c'est très révélateur. Et Jésus n'a pas dit la même chose à d'autres personnes qui ont probablement la même situation que lui. Par exemple, un autre contre-exemple peut-être, c'est Zachée, donc qui était aussi très riche, donc du fait de sa position comme collecteur d'impôts. Mais Jésus n'a pas dit il faut donner tous tes biens aux pauvres, etc. Alors il l'a fait de lui-même. Pourquoi ? Parce que ses affections avaient changé en rencontrant le Seigneur. Il y a eu une transformation. Il n'y a pas besoin de révéler en fait cette partie de sa vie. Elle s'est révélée elle-même parce qu'il y avait déjà une affection qui a été qui est autre. Il a changé. Ce n'était plus non seulement il a rendu ce qu'il avait pris. Etc. Mais il a rendu quatre fois plus. Donc ses affections ont complètement changé à ce niveau. Et une des caractéristiques du temps, c'est que souvent vous connaissez. Enfin, je pense que quand on pense au temps, on pense aussi au fait que à l'urgence. Donc le temps presse. Et donc, quand on a quelque chose à cœur, on veut le faire vite. Et donc, surtout quelque chose qui tient à cœur, donc il y a l'impatience de pouvoir réaliser quelque chose. Donc, surtout quelque chose qui a une très grande valeur. Et donc, il faut faire vite. Et je pense que le Seigneur aussi, dans cette parole d'Éphésiens 5, de racheter le temps, fait aussi référence à l'urgence. C'est-à-dire que ne gaspillez pas le temps que vous avez maintenant, mais mettez en pratique vraiment ce à quoi Dieu vous a appelé. Non seulement appelé, mais aussi préparé. Parce que Éphésiens 2, il nous dit nous sommes son ouvrage. Et il nous a préparé à des œuvres qu'il veut que nous pratiquions. Donc il y a la partie de l'urgence, ça veut dire que ce n'est pas pour plus tard, et souvent c'est vrai, on remet beaucoup de choses à plus tard, qui sont en fait simplement un signe que ces choses ne sont pas très importantes pour nous. Dans le degré d'importance, on remet les choses à plus tard qui sont les moins importantes. Et donc ça révèle encore une fois vraiment la manière dont on passe le temps, qui est complètement lié à ce qu'on considère le plus précieux dans notre vie. Mais c'est important de le savoir, parce que quand on examine soi-même, on peut faire ces choses-là, on peut discerner ces choses, on ne peut pas le discerner même parmi les amis parfois, parce qu'on ne voit pas certaines choses très personnelles, très ancrées dans la vie privée des personnes, mais on peut le faire. Donc il faut examiner soi-même, dire est-ce que le Seigneur le sait, qu'on est notre cœur, est-ce que mes passions sont vraiment en phase avec la volonté du Seigneur. Et je pense que tout le monde peut répondre à cette question très facilement. Et donc il faut agir, et il faut agir maintenant. Donc c'est Dieu nous appelle, et c'est ça, racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc Dieu nous appelle à agir maintenant. Donc, dans les choses les plus simples, en fait. Donc, ça commence par les choses les plus simples. Et parce qu'en fait, c'est pour ça que quand on parle du temps futur, et c'est là que la parole de Dieu est très claire, le futur, en fait, appartient à Dieu. Donc, mais occupe-toi du présent. Donc, c'est ça l'urgence. L'urgence, c'est le présent, pas le futur. Et le futur, Dieu prévoira à ce moment-là. Donc, mais quand on est dans la volonté de Dieu, donc on connaît déjà la volonté de Dieu pour nous, et on l'a lu déjà dans Éphésiens chapitre 5, verset 9, et dans Éphésiens chapitre 2. Donc, il n'y a pas vraiment à découvrir encore plus de ce que Dieu veut pour nous, mais à pratiquer ce que Dieu veut pour nous. C'est pas là vraiment. Donc on n'est pas au moment de la découverte. Donc ce passage nous appelle non pas à découvrir, mais à pratiquer. Et donc il y a l'urgence d'abord, mais il y a aussi une deuxième chose, c'est comment renoncer aux habitudes qui sont très fortes. Donc il y a des habitudes parfois, même sans penser, on peut même le faire sans vraiment engager même l'esprit, etc. Parce que tellement ces habitudes sont fortes, donc elles deviennent presque des routines. Il y a aujourd'hui, bien sûr, dans le temps où nous vivons avec Internet, l'hyperconnectivité, donc on est connecté constamment, sans cesse. il y a beaucoup de choses à faire, des amis, beaucoup d'amis virtuels, etc., mettre à jour. Il y a des informations constamment, etc. Donc, s'il y a un sujet particulier qui nous passionne, on peut passer des heures et des heures et des heures à suivre les dernières nouvelles. Et donc, il y a tout un océan, si vous voulez, de possibilités possibles, donc de passer son temps. Et donc, renoncer à aux habitudes est quelque chose de très difficile. Mais, et à moins que les affections changent, encore une fois. Donc, si les affections changent, donc après, forcément, parce que notre cœur est attaché aux choses qu'on aime. Et donc, c'est autrement, les habitudes ne peuvent pas changer de façon simplement par le fait de le décider ou de vouloir décider. Mais il y a dans le cœur les affections naturelles, les affections spirituelles aussi, que Dieu veut que nous puissions diriger vers ce qui est d'en haut. Et pour avoir en fait un exemple, des exemples très pratiques, il y en a plusieurs, même dans le Nouveau Testament, avec Jésus et les disciples. Et dans Matthieu chapitre 25, par exemple, il parle du retour du Seigneur, donc quand il y aura un jugement. Et c'est très intéressant parce que on voit un peu plus clairement en fait de quoi il s'agit quand on parle de vivre dans la lumière ou pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc souvent on peut interpréter ça de façon très différente. Pratiquer les bonnes œuvres, ça peut être différent selon la personne. Mais dans Matthieu chapitre 25, il nous donne un peu une idée, parce que c'est au moment où Dieu juge les nations. Verset 35, Matthieu 25, verset 35. Et quand on lui a dit, donc à ce moment-là, partir du verset 34, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Donc vous voyez, en fait, il parle des choses. Quand il parle, quelles sont ces choses qui révèlent en fait que ce sont des brebis et ce ne sont pas des brebis? Donc comment est-ce que Dieu fait cette distinction? Et donc tout simplement, il a cité les choses qui démontrent qu'une personne est un enfant de Dieu, dans la lumière, qui vit dans la lumière du Seigneur, et ce sont des choses qui sont à notre portée quotidienne. Donc il parle de faim, de soif, de vêtir, de visiter les malades, visiter les prisonniers. Donc, pourquoi ces choses sont importantes? Parce que elles n'ont pas vraiment de valeur matérielle pour nous, tu vois, parce que le monde est constamment attaché aux choses matérielles et à quelque chose qui a une valeur personnelle et matérielle. Alors qu'ici, en fait, on voit des choses qui sont vraiment extérieures. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont des choses qui sont désintéressées. Donc c'est à l'image de Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, il s'est humilié. Et là on voit dans Philippiens, chapitre 2, donc comment il s'est humilié, de la gloire qu'il avait pour devenir homme, non seulement homme mais aussi serviteur. Et qu'il a souffert jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc il a fait tout ça de façon vraiment par sacrifice, et non pas pour un gain particulier qui désirait tellement qu'il a voulu faire. Mais c'était un sacrifice, et ces choses-là, en fait, que Dieu nous appelle à faire, sont tout simplement un témoignage que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et donc nous avons lui comme notre berger. Donc c'est suivre et être la lumière. Donc c'est tout simplement le fait de faire les œuvres de Christ, être la lumière de Christ. Et donc, c'est pour ça que le temps est tellement important et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un moment futur. Il faut être prêt ou il faut être éduqué d'une façon ou d'une autre, etc. Mais ce sont des choses que Dieu met à disposition tout le temps pour être une lumière dans un monde de ténèbres. Et au moment du jugement, Dieu fera émerger ces choses-là. C'est tout simplement la manière dont il jugera les nations. Donc toutes les nations qui sont venues, qui sont séparées, et les autres, en fait, qui n'étaient pas entrés dans le royaume, il a cité la même chose. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Donc c'était le même jugement, le même moyen de jugement, en fait. Redoublons, en fait, de disposition et dans notre... Parce que le fait d'être conscient de ce que Dieu attend de nous augmente notre disposition aussi de cœur. Et souvent, c'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de confusion, même sur ce qui est bon et pas bon, sur ce qui est juste et pas juste. Il y a beaucoup de confusion. Si vous écoutez tous les discours et tout ce qui se dit, etc., chacun a sa version, en fait, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et parfois, le mal peut être interprété en bien. Et le bien peut être interprété en mal aussi. Donc il y a de la confusion. Et c'est pour ça que avoir la parole de Dieu comme comme une encre sûre et solide, eh bien, c'est le seul encre possible, parce qu'il y a tellement de changements. Autrement, on peut être amené à penser différemment très facilement, en fait, parce qu'il y a tellement d'opinions diverses et variées que sans l'encre de la parole de Dieu, eh bien, on peut être très facilement perdu dans toutes les opinions. Mais je pense que la meilleure façon de garder vraiment cette encre solide, c'est d'être dans la parole de Dieu, de nous affectionner des choses d'en haut. Et contre ces choses d'en haut se trouvent dans la parole de Dieu, se trouvent aussi dans le corps de Christ, qui est l'Église. Donc d'être les uns avec les autres dans l'adoration, dans la louange, etc. C'est la meilleure façon de rester ancré dans la parole, dans la vérité, et de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, même avant la fondation du monde. Donc, je pense qu'on peut être encouragé du fait qu'on n'est pas obligé de chercher. Souvent, si vous cherchez un métier, par exemple, si vous êtes entré à l'université, que vous voulez savoir ce qu'il faut faire comme métier, etc. Donc, il y a énormément de pression, parce que d'abord, quels sont mes dons naturels, qu'est-ce que je dois faire, ensuite, qu'est-ce que j'aime, ensuite, qu'est-ce qui est vraiment porteur au niveau économique, etc., et carrière. Et donc, il y a beaucoup de facteurs à mesurer. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on désire plus naturellement qui est le plus avantageux. Parfois, c'est autre chose. Et donc, il y a beaucoup de pression à ce niveau-là. Mais par contre, le Seigneur nous dit qu'il a préparé déjà d'avance ses bonnes œuvres. Donc, il faut tout simplement mettre ses affections dans les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Et je pense qu'on a mentionné quelques exemples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, mais aussi dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 9, où il parle de bonté, de justice et de vérité. Donc, ce sont des choses simples, en fait, finalement. Ce n'est pas des choses qui demandent une certaine préparation ou quoi que ce soit, mais ce sont des choses simples, mais qui reflètent la lumière de Christ. Donc, la lumière de Christ brille par ça. Quand nous sommes dans cette disposition où nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et donc il nous appelle tous, et je pense qu'il n'y a pas de distinction vraiment de personne. Que certains, parce que c'est vrai qu'il appelle, il y a des dons spirituels spécifiques comme les apôtres, les enseignants, etc. Il y a cela. Mais tous sont appelés à la bonté, à la justice et à la vérité. Donc, et c'est ça, être dans la lumière, vivre dans la lumière de Christ, c'est pratiquer ces choses. Donc, si vous croyez ces choses, pratiquez-les. Donc, c'est dans la pratique de ces choses-là que Dieu vraiment fait son œuvre en nous, et pas seulement en nous, mais aussi à travers nous. Parce que les autres, vous pouvez dire une parole, vous pouvez prendre position dans un conflit ou dans une situation qui est juste, qui est vraie. Eh bien, on pense que ah, c'est peut-être personne ne remarque, ça passe par une oreille, ça sort par. Mais ne pensez pas ça, parce que c'est pas vrai. C'est la lumière brille à ce moment-là. Quelle que soit la situation, vous pouvez pas. C'est vrai, on peut pas voir le résultat et le fruit de tout ce que Dieu fait dans ces choses-là. Mais il y a toujours un résultat, il y a toujours un fruit qui arrive, peut-être qu'on ne verra pas. C'est vrai, mais Dieu le voit et il récompensera au temps convenable. Et donc c'est pour ça que nous ne devons pas être découragés par le fait que je fais des œuvres mais ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Mais c'est vrai, mais la raison c'est que tous les effets ne sont pas visibles. Et en fait le plus grand miracle qui arrive dans la croissance et la création est largement invisible à l'œil. Et donc, c'est pour ça que ne pas désespérer, ne pas être découragé dans la pratique de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et de le faire fidèlement parce qu'au moment convenable, nous récolterons le fruit de justice. Et surtout que nous serons une lumière intérieure, mais aussi une lumière extérieure. Mais je pense pour vous. Finalement, l'exhortation que je voudrais vous laisser, c'est la même exhortation de Éphésiens 5, versets 15 et 16. Il dit de racheter le temps. Et avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Parce que quand on pense au passé, souvent, dans quelle que soit la situation, il est trop tard. Donc ce qui est trop tard ne peut pas être rattrapé. Mais le Seigneur nous donne l'occasion de rattraper. Et c'est vrai, on voit beaucoup d'exemples comme ça, des personnes qui vivent, qui arrivent à la fin de leur vie, et tout à coup, Dieu fait un changement extraordinaire. Et donc, toute leur vie devient lumière. Et donc, on peut penser, c'est dans ce sens-là que Dieu nous parle de racheter le temps. C'est-à-dire, dès maintenant, aujourd'hui, si tu entends sa voix. Et donc, c'est avec le Seigneur, c'est jamais demain, c'est toujours aujourd'hui. Et donc, c'est aujourd'hui que Dieu nous appelle à faire ce qu'il nous appelle à faire. Et donc, le temps est très important. Il y a aussi ce psaume 90, 12, où il nous parle de compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours, et afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, compter les jours. Donc, avoir des calendriers, c'est très important. Ça peut aider à voir le temps passé. Ah bah ok, j'avais un projet de faire, mais je n'ai pas fait. Mais je peux le faire aujourd'hui. Pas dans quelques semaines plus tard, mais je pense que c'est très utile de penser comme ça, de penser à faire les choses aujourd'hui. Et on parle des choses que le Seigneur considère comme une lumière du monde. Donc, ils sont des choses qu'on peut faire tous les jours avec tous les gens qu'on rencontre. S'il y a l'occasion de prendre un café avec un collègue, avec un voisin, etc., ne pas remettre ça deux semaines ou trois semaines ou plus tard ou après l'été, mais le faire au moment où l'occasion se présente, tout simplement. Et je pense que si on fait les choses de plus naturellement comme ça, on voit l'authenticité, mais aussi le fruit de l'esprit commencera à porter beaucoup de fruits dans les cœurs des personnes qui nous entourent. Et donc, c'est deux choses que je voudrais donc vous exhorter à garder. Éphésiens chapitre 5, racheter le temps, et psaume 90, de prier, afin que le Seigneur nous aide à compter nos jours et à appliquer notre cœur à la sagesse. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour pratiquer sa parole. Merci.